Que le Seigneur soit béni. Quel bonheur de se retrouver dans la maison de Dieu avec des frères et des sœurs pour partager sa parole et être au bénéfice de sa bénédiction. Nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 1er, du verset 18 et au verset 25. Matthieu, 1er chapitre, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel on donna le nom de Jésus. On relit le verset 21. « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. » L'apôtre Paul a dit que la prédication de la croix, c'était une folie. C'est une folie. Pour les gens qui ne sont pas baignés, trempés dans les choses spirituelles, dès que vous parlez de la prédication de la croix, c'était une folie. Et pourtant, pour nous cet après-midi, nous qui sommes sauvés, ou vous qui allez être sauvés, vous découvrirez que c'est une puissance de Dieu. C'est une folie, oui, pour ceux qui ne veulent pas réfléchir à leur salut. Peut-être que vous êtes en train de faire cette expérience, vous réfléchissez au salut de votre âme. Il y a des gens qui ne pensent pas à leur salut pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, et qui tout d'un coup se mettent à penser à l'éternité, ils réfléchissent à leur salut, à leur propre salut. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose de ridicule, de stupide, puis tout d'un coup, ça devient quelque chose d'important. Alors pour vous, c'est important le salut ? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris à cœur ? En tous les cas, une chose est sûre, la prédication, celle que nous partageons cet après-midi, comme ces cantiques que nous venons de chanter, peuvent amener la puissance de Dieu dans votre vie. Sur la terre, Dieu sépare l'humanité en deux. D'un côté, les riches et les pauvres, c'est ça ? C'est comme ça que Dieu fait ? Non ? Les blancs et les noirs, c'est comme ça que Dieu fait ? Non. En vérité, Dieu peut séparer l'humanité en deux. D'un côté, il y a ceux qui sont sauvés, et de l'autre, il y a ceux qui sont perdus. Ça, c'est la vérité. Que l'on soit riche, pauvre, noir ou blanc, en vérité, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont sauvés et qui iront au ciel, et ceux qui ne veulent pas du salut et qui iront en enfer. Et ce texte que nous venons de lire nous prouve que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre, et que tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seront sauvés. Quelle bénédiction! C'est lui qui sauvera les hommes. Est-ce que vous êtes sauvés ? C'est la question la plus importante. On pourrait vous poser, est-ce que vous êtes riche ? Est-ce que c'est une question qu'on pose ça ? Est-ce qu'on peut poser cette question à quelqu'un ? Est-ce que vous êtes riche ? Est-ce que vous êtes pauvre ? Est-ce que ce sont des questions qui se posent ? Non. Mais la question, êtes-vous sauvés ? C'est une question que l'on peut poser. Il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être, mais il y a des questions importantes. Et celle-ci doit être posée. Est-ce que vous êtes sauvé ? Cet après-midi, c'est peut-être la chose la plus importante que vous ayez à régler sur la terre. Vous avez vu que le nom de Jésus a été choisi à propos, avant sa naissance. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui sauverait les hommes. Nous vivons dans un drôle de monde, non ? Nous vivons dans un monde un peu difficile. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on est sauvé ? Si vous deviez témoigner cet après-midi à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à votre propre salut ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Que vous avez de la joie, hein ? Ceux qui ont accepté Jésus, est-ce qu'ils sont joyeux? Je lisais le témoignage derrière moi d'une jeune fille qui s'est suicidée. C'était la fille d'un milliardaire. Elle allait à l'école avec son chauffeur, sa limousine et tout. Et sa mère a pris contact avec un pasteur. Elle dit, mais je ne comprends pas, c'est impossible que ma fille ait fait ça. Elle s'est aspergée d'essence dans son lit, 18 ans, et elle s'est supprimée. Ses parents étaient milliardaires. Et le pasteur lui a expliqué, mais que ce n'est pas l'argent qui rend heureux. La joie, elle vient quand on a fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je comprends l'angoisse des parents devant une affaire aussi grave. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont la paix. Et dans un monde comme le nôtre, je peux vous assurer que c'est une grande bénédiction d'avoir la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Jésus qui sauvera. Un jour, je me souviens de ce garçon qui était en train de témoigner. Il vous faut vous repentir, il vous faut vous convertir. Mais la personne ne comprenait rien. Elle ne comprenait rien. Si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Mais la personne ne comprenait rien. Et je disais à ce garçon, après l'entretien, je lui dis, il faut d'abord que la personne comprenne qu'elle a besoin d'un sauveur. Et ça, il y a quand même une expérience à faire, une perception de certaines choses à comprendre. Avant d'accepter un sauveur, il faut d'abord avoir compris qu'il y a un problème, que l'on est perdu. Quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Eh bien, être sauvé, ça veut dire qu'on est libéré. On est libéré de la punition ultime qui s'appelle l'enfer. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Paralysé depuis 38 ans. C'est énorme, non? Est-ce que c'est beaucoup? Il était malade depuis 38 ans. Et quand Jésus, dans le temple, va croiser cet homme qui est guéri et qui était malade depuis tant d'années, Jésus va lui dire, va et ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, je ne sais pas ce qu'il a dû penser, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être malade depuis 38 ans? Eh bien, c'est d'aller en enfer. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir été malade, paralysé, détruit toute sa vie? Eh bien, c'est d'aller en enfer. Et la Bible parle de ce lieu où il n'y aura que des ténèbres, les démons et Satan. L'enfer, c'est quelque chose de terrible. On a l'impression que ce n'est pas possible que Jésus puisse parler de l'enfer. Qui c'est qui en parle le plus dans la Bible? Eh bien, c'est lui. C'est lui qui parle le plus. Par exemple, les 12 fois où il est parlé de la géhenne, eh bien, 11 fois, c'est Jésus qui en parle. Pour vous donner juste une idée. Être sauvé, puisque Jésus sauve, ça signifie que l'on est sauvé de l'enfer. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que les gens s'imaginent, oui, Jésus, la Bible, la religion, les églises, telle église ou telle autre. Non. Quand on est sauvé de la perdition. Parce que vous savez, on est dans un monde compliqué, les gens ne comprennent rien, les gens fêtent Noël, mais ils n'ont rien compris à ce que signifiait la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ils fêtent Pâques ou ils fêtent d'autres Pâques religieuses, d'autres fêtes religieuses, mais ils ne comprennent rien. Quand on est sauvé, on sait de quoi on est sauvé. Et vous êtes heureux si vous pouvez dire « oui, Jésus m'a sauvé ». Vous êtes heureux si vous pouvez dire, oui, je sais que lorsque je partirai de cette terre, je partirai dans la gloire de Dieu. Je ne partirai pas dans ce lieu de tourment. La Bible parle des flammes éternelles pour l'éternité. Ça fait réfléchir? Ça fait peur ou ça fait réfléchir? Les deux, hein? Oui, un peu les deux quand même, franchement. Qu'avez-vous pensé, vous, la première fois que vous avez lu ces textes sur les flammes éternelles, les tourments éternels, l'obscurité pour l'éternité? Ça vous plaît, vous, l'obscurité pour l'éternité? Non. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Jésus en parle, il en parle souvent, et il ne veut pas nous faire peur. Vous vous rappelez quand il a parlé de la parabole de Lazare et du mauvais riche? Ces deux hommes qui vivaient, l'un d'une façon, l'autre de l'autre. Et tout d'un coup, presque en même temps, ces deux hommes sont morts. Il nous est dit que l'un fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, que l'autre, il a eu un enterrement, puisqu'il est dit qu'il a été enseveli, mais qu'il s'est retrouvé en enfer, dans un lieu de tourment. Est-ce que c'est important pour vous l'enterrement, que vous ayez un beau cercueil, de belles fleurs? Est-ce que c'est important pour vous? C'est important, l'enterrement, de belles fleurs, de belles couronnes? Est-ce que c'est important? Vous savez, tous les ans à Paris, il y a,
il y a un colloque sur la mort. Et ils essaient d'embellir ce sujet. Alors ils avaient pris deux photos d'un mort, le même. L'un, c'était une femme qui était morte. Mais vrai. Une, il l'avait maquillée, vraiment maquillée. Et l'autre, c'était la même femme, mais pas maquillée. Alors il demandait quelle mort on préférait. Être maquillée ou pas maquillée. Non mais je vous dis, on est dans une société extrêmement en avance. Est-ce que vous vous rendez compte la stupidité de la chose? Pour essayer d'embellir la mort, de banaliser la mort, ça ne change rien. Un mort que vous le maquillez ou pas, ça ne change rien. Une tombe, c'est pareil. Une tombe, elle peut avoir des fleurs partout, ça ne change rien du tout. Ce qui est important, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et Lazare, lui, il avait accepté Dieu comme étant son secours. Tandis que celui qui faisait semblant, qui, même s'il avait une robe de fin lin qui représente les œuvres, cet homme, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Et c'est Jésus qui parle. La Bible dit qu'il était en proie au tourment. Et les gens nient aujourd'hui la réalité de l'enfer. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a des églises où il y a des années qu'on n'a pas parlé de l'enfer. Des années. J'ai plusieurs témoignages suite à une prédication comme celle-ci où des gens m'ont écrit et m'ont dit « Monsieur Gault, ça fait des années. » Une m'a écrit « Ça fait 30 ans que je suis converti. Je n'ai jamais entendu dans mon église le mot « enfer ». Jamais entendu le mot « enfer » dans mon église. Et pourtant, c'est écrit, il faut que vous sachiez que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, la colère de Dieu demeurera sur vous. Et par contre, si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez bénis. Bénis pour l'éternité, bénis sur la terre, que vous aurez la paix dans les épreuves, que vous aurez la joie, oui la joie, même dans la tribulation, que vous aurez cette assurance, cette grâce. Quel bonheur d'être sauvé, quel bonheur. Quand il y avait le festival de Cannes, j'entendais certainement que c'est le meilleur endroit où on pourrait être en France en ce moment, c'est Cannes. Et moi je me suis dit, le meilleur endroit, c'est dans notre église. Et je le pensais vraiment. Vous le pensez aussi, que le meilleur endroit, eh bien, ce sont les lieux où des hommes et des femmes ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous fait prendre conscience que le mauvais riche, le mauvais riche, eh bien, il se souvient d'une chose. Il s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu qu'il avait sur la terre, qu'est-ce qu'il s'est souvenu? Des frères. Et il dit, mais il ne faut pas que mes frères y viennent. Il ne faut pas que mes frères y viennent dans ce lieu de tourment. Il faudrait que quelqu'un des morts ressuscite. Et il croirait. Et Jésus a dit, même si quelqu'un des morts ressuscitait, ils ne croiraient pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et aujourd'hui, ça voudrait dire, ils ont la parole de Dieu et les pasteurs. Ou la prédication et les évangiles, on pourrait dire la même chose. Et ça suffit, ce que nous sommes en train de partager cet après-midi, pour que quelqu'un puisse passer des ténèbres à la lumière. Vous préoccupez-vous de votre éternité? Ou est-ce que vous dites, oh, on verra bien, on verra si c'est vrai, ou alors Dieu choisira pour moi? On entend ça, oh, on verra, c'est Dieu qui choisira. Mais il a déjà choisi. Lorsque Jésus est venu sur le bois de la croix, il a déjà choisi, il veut vous sauver. On l'a chanté, Jésus veut vous sauver tous. Et ce riche qui faisait quelques œuvres, parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils pourront être sauvés par les œuvres. La Bible est catégorique, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En tous les cas, cet homme, comme des milliers aujourd'hui, a appris, une fois qu'il était mort, que la Bible est vraie. Et aujourd'hui sur la terre, des dizaines de millions de gens vérifieront que la Bible est vraie. Mais le problème, c'est qu'ils le vérifieront, mais que ce sera trop tard. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui, une minute après leur mort, donneraient les milliards qu'ils ont eus sur la terre pour pouvoir changer d'endroit. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Le Seigneur est catégorique, il l'a dit, il a donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, il faudra tous comparaître devant Dieu. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ, ceux qui se repentent, ceux qui disent « Oui, je crois que ton sang a coulé, je crois que tu as versé ton sang pour me pardonner », eh bien, ils sont sauvés de la punition. Ils n'iront pas en enfer. Pas parce qu'ils sont évangéliques. Quelqu'un me disait dernièrement, mais quelles sont les dénominations qui sont sauvées? Mais c'est une question. Voilà. Est-ce que les catholiques sont sauvés? Est-ce que les protestants sont sauvés? Est-ce que les baptistes sont sauvés? Moi, je crois qu'il y a des baptistes qui sont sauvés et des baptistes qui sont perdus. Je crois qu'il y a des évangéliques qui sont sauvés et des évangéliques qui sont perdus. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église, comme le brigand sur la croix, et qui seront sauvés. Et ainsi de suite, seront sauvés ceux qui accepteront Jésus-Christ. On l'a lu, on l'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu sur le bois de la croix. Ce matin, on y a fait beaucoup allusion à l'humilité de Jésus qui a accepté jusqu'à la mort de souffrir pour nous sauver. Quelle grâce! Et nous devons choisir. Nous ne devons pas dire, bon, ben, il a qu'à me forcer. Quelqu'un prier un jour, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Il y en a même qui ont dit Amen. Je pense qu'il y en a qui n'écoutent pas toutes les prières. Force-moi à faire ta volonté. Bon. Est-ce que vous voyez Jésus en train de forcer quelqu'un? Eh bien non, c'est à vous de vous forcer. Il ne vous forcera pas. Il vous aime, il a donné sa vie, il a versé son sang, il a tout accompli. Il a même dit qu'il intercède pour les hommes. C'est écrit que Jésus intercède? Oui, il intercède. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez aller au ciel. Si vous voulez aller au ciel, c'est vous qui vous déciderez peut-être cet après-midi en vous repentant, en disant « Seigneur, je te demande pardon, toute ma vie j'ai eu une religion, mais en vérité je ne me suis jamais intéressé à ta parole, je ne me suis jamais humilié devant toi, je ne t'ai jamais vraiment du fond du cœur demandé pardon pour tes péchés, pour mes péchés. Alors Seigneur, je viens à toi cet après-midi, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. » Il y avait, dans le village où j'étais quand j'étais petit, un monsieur qui, de temps en temps, il avait un papier, il avait fait des œuvres, il avait fait la guerre, et le responsable de la paroisse lui avait fait un papier, comme quoi il était sauvé. Voilà. À cause de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez donné, voilà, vous irez au ciel, l'abbé untel. Et cet homme s'est promené avec ce papier. Et puis un chrétien qui lui a dit, mais vous croyez que vous allez aller au ciel parce qu'on vous a fait un papier, comme quoi vous allez au ciel? Et le gars, il en était sûr et certain parce qu'un homme d'église avait signé ce papier. Alors il faisait ce qu'il voulait, mais pour lui, il était sauvé. Non, vous pouvez avoir votre nom inscrit dans un registre d'église, ce n'est pas pour ça que vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé si vous vous êtes repenti et si vous avez vraiment accepté Jésus-Christ. Alors là, oui, votre nom est écrit dans le livre des cieux. Ne vous imaginez pas que vous serez sauvé parce qu'on vous a dit que le purgatoire existait. Ça continue encore, ça plaît aux gens. Les gens ne croient pas en Dieu. On leur parle de Dieu, ils ne croient pas. On leur parle du paradis, bon. On leur parle de l'enfer, bon. Non, l'enfer, ça n'existe pas. Mais quand on leur dit, mais vous savez, il y a un purgatoire où on peut... Ah bon. Et il y en a qui acceptent l'idée, c'est terrible ça. Ils acceptent l'idée, la pensée que des hommes ont inventée, à savoir qu'il pourrait y avoir, après la mort, un lieu de transition où on va payer pour pouvoir aller au ciel. Et ça, c'est très très bien accepté. Ça a été très très bien accepté. Il y a des gens qui ont donné leur fortune pour que l'on prie pour eux, afin que le temps qu'ils passeraient au purgatoire soit écourté. Mais c'est terrible ça. Moi, j'ai vu des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, mais qui croyaient qu'avec de l'argent, on pouvait écourter le temps que l'on passait au purgatoire. C'est quelque chose d'hallucinant. Non, c'est sur la terre qu'on se prépare. Jésus a dit aux Parisiens qui critiquaient, parce que Jésus était en train de dire à un homme, « Tes péchés sont pardonnés », ils étaient furieux contre lui. Et Jésus a dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Si vous voulez aller au ciel, c'est sur la terre que vous devez demander pardon pour vos péchés. Il vous aime. Et si vous écoutez sa parole, Dieu vous bénira. » Jésus l'a dit, « Celui qui m'écoute, et qui croit à celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie. » Vous aimez écouter la parole de Dieu? Eh bien, vous êtes heureux. Et vous aurez la grâce de Dieu. La Bible dit que même si nos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge foncé, on peut pas, oui c'est ça, hein, ils deviendront blancs comme la neige. À une femme surprise en flagrant délit d'adultère, c'était grave, qui devait être lapidée, et on n'attendait que ça, pour contrarier même la venue de Jésus. La femme, on s'en fichait, mais pour provoquer Jésus, Jésus a dit à cette femme, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Nous avons la preuve par ces textes, dont celui-ci, que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais qu'il est venu pour nous sauver. Alors ne dites pas, c'est Dieu qui décidera. Je vous dis, il a déjà décidé. C'est à vous de vous positionner. On a chanté « Serait-ce » la dernière fois. Et combien on en a vu ? De gens qui sont venus dans nos réunions et qui sont morts dans les jours qui ont suivi, qui sont morts dans les semaines qui ont suivi. Qu'ont-ils fait ? Que sont-ils devenus ? Oui, Dieu sait que pour certaines personnes, aujourd'hui sur la terre, c'est sans doute la dernière fois qu'ils écouteront l'évangile. Albi, je me souviens d'un monsieur qui était, il venait deux ou trois fois par an. Et un dimanche, il est venu, et le lendemain, il a eu un arrêt cardiaque. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il s'est converti. Il m'a juste salué à la sortie. C'est quelque chose qui m'a prouvé, une fois de plus, qu'on ne doit pas s'amuser avec l'éternité. Ne vous amusez pas avec votre vie éternelle. Des millions de gens en enfer regretteront l'éternité de ne pas avoir pris au sérieux leur libre arbitre, leur possibilité de choisir. Quand on est sauvé de l'enfer, mais on est sauvé également de la puissance du péché. C'est extraordinaire d'être sauvé de l'enfer, oui ou non ? Mais s'il y a une chose qui est encore plus qu'on peut rajouter à cette bénédiction, c'est qu'on est libéré du péché et qu'on peut prendre des victoires. Est-ce que vous savez cet après-midi que Dieu peut vous délivrer du péché ? C'est extraordinaire d'être sauvé, c'est la chose la plus importante. Mais beaucoup peuvent témoigner que quand ils ont accepté Jésus, ils ont été sauvés de la perdition et ils ont été sauvés de la puissance du péché. Car il y a des gens qui sont esclaves. Il y a des gens qui disent « j'arrive pas à me séparer de la drogue, j'arrive pas à me séparer de l'alcoolisme, etc. » Mais est-ce que Dieu peut vous délivrer ? Quand on est sauvé, Dieu vous délivre. Il y a des gens qui sont dominés par le péché. Vous avez certainement vu des fois des faits divers à la télévision. On voit bien qu'il y a des choses terribles qui se passent. Oui ou non ? Je sais pas, c'est une voix qui m'a poussé à tuer quelqu'un. On entend des choses complètement ahurissantes. Bon, n'allons pas jusque-là. Mais franchement, nous le savons, il y a des choses qui peuvent dominer l'homme. Et cet après-midi, vous devez comprendre que lorsque Jésus parle de sauver, il sauve de l'enfer, mais il sauve de la puissance du péché. Il y a des gens qui sont détruits. Je parlais de la drogue, je parlais de l'alcool, mais il y a des gens qui sont détruits par toutes sortes, toutes formes de péchés. Et Jésus, il est venu pour délivrer. Quand vous voyez son ministère, il délivrait les captifs, il guérissait les aveugles, les opprimés, les démoniaques. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Il a le pouvoir de vous délivrer de la puissance du péché. Et c'est ça la victoire. Quelle grâce! Vous n'avez pas fait des expériences en vous convertissant ? Est-ce que vous voulez en faire cet après-midi, si vous en avez besoin, de faire une véritable expérience ? On l'a chanté, si quelqu'un est en Christ, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a chanté, c'est jeudi. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a aussi dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, voilà ce que Jésus fait. Il nous sauve de l'enfer, il nous sauve de la puissance du péché. Et c'est exactement ce que Dieu veut que vous fassiez cet après-midi. Peut-être vous avez des chaînes, vraiment des chaînes. Bien sûr, elles ne sont pas physiques, mais elles sont vraiment spirituelles. Et vous n'avez pas la possibilité, vous avez tout essayé. Vous essayez d'une façon, vous essayez de l'autre. Mais c'est Jésus qui délivre. Et vous devez le croire. Vous devez faire un acte de foi. Il y a des gens qui sont dans un état lamentable. On rencontre des gens, ils sont détruits. C'est qui fait ça ? C'est la puissance du péché. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi Dieu veut que nous ayons des réunions comme celle-ci ? Pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous soulager. Vous avez vu le gadarénien que Jésus a délivré ? C'est pas merveilleux ça ? Est-ce qu'il peut le faire encore aujourd'hui ? Peut-être vous n'en êtes pas là, vous n'avez pas besoin de vous cacher tout nu dans des cimetières, attaché avec des chaînes. Mais peut-être que vous avez besoin quand même de certaines victoires. N'attendons pas que les choses s'aggravent, laissons la grâce de Dieu nous toucher. C'est beau de vivre dans la victoire. Il y en a des gens qui vivent dans la victoire. Ce n'est pas une bénédiction, ça? Oui, on l'a appelé Jésus. C'est lui qui sauvera les hommes du péché. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et on est sauvé de quoi? On est sauvé de l'enfer, de la puissance du péché, et on va être sauvé de la présence du péché. Parce que même aujourd'hui, si on est sauvé de l'enfer, si on est sauvé de la puissance du péché, nous sommes quand même dans un monde plein de péchés. Oui ou non? Vous ne trouvez pas? Non? Est-ce que j'exagère? Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de péché autour de nous? Bon. Et nous serons sauvés de la présence même du péché. Nous allons bientôt partir dans un lieu où il n'y aura aucun péché. Vous pouvez dire amen, parce que je peux vous dire que ça va être bien. Vous le croyez ça? Hein? On le lit dans l'Apocalypse. Le monde, même si on est chrétien, même si on est sauvé de l'enfer, même si on a pris des victoires, on est quand même confronté continuellement au péché. Et un jour, il n'y en aura plus. Alléluia. Regardez dans l'Apocalypse. Vous êtes heureux, vous, mais l'humanité entière, sans Dieu, est dans la misère. Et donc Jésus a dit, je le lisais ce matin, je m'en vais vous préparer une place. Une maison dans le ciel. Est-ce que vous savez que vous avez une maison dans le ciel? Comment elle est, cette maison? Comment elle est? Comment elle doit être? Vous croyez qu'elle doit être bien? Vous avez une idée? 200 mètres carrés? 1000 mètres carrés? Il y a quand même... Moi, je suis sûr que ça va être génial. Vous le croyez? Est-ce que vous le pensez? Jésus l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. Je vais vous préparer une maison. Alors, lisons Apocalypse 21, versets 1 à 4. Ça, c'est quand même le top niveau. Béni soit Dieu pour les délivrances et les victoires. Mais quel texte! Apocalypse 21. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà, quand on est sauvé, ce qui va arriver. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas que échapper à l'enfer et c'est pas qu'avoir la victoire sur le péché. C'est un programme extrêmement amélioré. Laissez-moi vous le dire. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, c'était bien qu'on le sache ça, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà ce que c'est être sauvé. Ce n'est pas qu'être, nous on est chrétiens, et les autres ne sont pas chrétiens. Quand on est sauvé, on est sauvé de la présence du péché. Un jour, tout cela n'existera plus. Plus de deuil, parce qu'il y a de quoi pleurer, même si on est heureux. On peut chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Est-ce que vous pouvez le chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé » Mais vous êtes d'accord? 5 minutes après, ou ce soir devant les infos, il y a de quoi pleurer. Oui ou non? Et tout ça un jour disparaîtra. Quand quelqu'un est sauvé, il sera un jour sauvé de la présence même du péché. Il n'y aura plus de péché. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est sûr qu'on ne peut même pas soupçonner comment ça va être. Déjà que le paradis, ça doit être quelque chose de merveilleux, que ce que l'apôtre Paul a vu, il nous dit qu'il n'est même pas capable à un homme de l'exprimer, mais comment ça va être? Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, voilà ce que c'est être sauvé. Ça veut dire que toute l'éternité, nous serons épargnés de la présence même du péché. Il n'y aura pas de péché dans le ciel, que le nom du Seigneur soit béni. On ne pourrait pas vivre toute notre vie, même sauvé. Je vous avoue, est-ce que si on vous disait, voilà, même sauvé, vous allez vivre 3000 ans sur la terre. Ça vous convient? Non. Par contre, est-ce que ça vous dit l'éternité dans un endroit où il n'y aura aucun péché? Oui, ça vous va? Oui, bon, si. Voilà, c'est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alors, êtes-vous sauvé? Il est venu vous sauver. Cet après-midi, tous ici, vous devez pouvoir répondre à la question, oui ou non. Si vous dites peut-être, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous devez être sérieux. Si vous dites oui, gloire à Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes heureux. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît. On pourrait peut-être chanter ce cantique. Jésus est au milieu de nous. Parce qu'on veut donner la possibilité à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes chrétien de nom, mais vous n'avez pas cédé, vous ne vous êtes pas engagé. C'est pour cela que dans nos églises, dans les assemblées, nous sommes souvent amenés à voir des hommes et des femmes à prendre le baptême, adultes, par immersion, parce qu'ils s'engagent. C'est un engagement d'une bonne conscience, c'est quelque chose de sérieux, c'est réfléchi. C'est une façon de se démarquer, de s'engager, de montrer qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Et dans la Bible, tous ceux qui se repentaient et se convertissaient se faisaient baptiser pour suivre le Seigneur Jésus toute leur vie. Mais avant, ça doit être précédé d'une prise de position. Peut-être quelqu'un veut prendre position pour le salut de son âme. Peut-être que quelqu'un a besoin de la délivrance, de la puissance du péché. Peut-être quelqu'un a besoin d'être touché par le Saint-Esprit pour avoir de l'assurance dans son cœur. Car Jésus a dit, si vous savez ces choses, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes sauvés.